France Info.
Bonjour Diane Curis.
Bonjour.
C'est d'abord en prenant la lumière sous le feu des projecteurs, sur scène et en tant que comédienne, que vous avez débuté au théâtre et au cinéma. Vous avez même hérité d'un petit rôle dans le film Casanova de Federico Fellini en 76, mais ça ne vous a pas amusé très longtemps. Finalement, vous avez été rattrapé par l'écriture et ça vous a permis de raconter vos histoires et même la vôtre avec Diabolomante, un film qui effectivement en dit long sur vous et sur votre adolescence. Suivront au coup de foudre sur une relation d'amitié particulière entre deux jeunes femmes dans les années 50 ou encore La Baule les Pins avec une famille qui se déchire pendant ses vacances. Aujourd'hui, vous avez réalisé Moi qui t'aimais avec Roche Dizem et Marina Foïs, un gros plan sur la relation et l'idylle, devenue désillusion et même déchéance entre Yves Montand et Simone Signoret, un couple aussi différent qu'amoureux. Pendant 30 ans, l'histoire d'amour a débuté par un coup de foudre survenu en 1949 à Saint-Paul-de-Vence. Elle lui voit un amour inconditionnel au détriment de sa propre carrière, de sa vie de mère. Elle aimait que son mari plaise. Et puis Marilyn Monroe s'est invitée dans cette histoire. Ce qui l'a marqué à vie, ce qui est incroyable dans ce film, Diane Curis, c'est que vous mettez vraiment le doigt sur une autre époque, sur une époque où la femme était totalement finalement soumise aussi, malgré une histoire d'amour fulgurante, malgré une histoire d'amour partagée. Vous mettez le doigt sur un autre temps.
C'est vrai. Je pense pas que Simone Signoret était totalement soumise. Elle a souffert. Elle s'est battue. Oui, bien sûr que c'est une autre époque. C'est une époque où les hommes étaient, on les autorisait à être des machos. Une autre époque. On peut pas dire autre chose. Aujourd'hui, on lui pardonnerait pas. Elle ne lui pardonnerait pas ses infidélités. Je pense qu'elle se révolterait plus tôt et plus fort. Et voilà. Je peux pas porter un jugement sur une histoire qui s'est passée il y a 40 ans. Je peux juste montrer un couple emblématique dont on n'imaginait pas l'intimité douloureuse. On savait que Montand était volage, mais on n'imaginait pas qu'il était aussi volage que ça et qu'il l'a quand même bafoué souvent. Bon, bafoué avec Marilyn, c'est terrible. C'est le pire qu'on peut faire à une femme et à une actrice, justement. Parce que
de la trempe en plus de Simone Signoret.
Le monde entier est au courant, voilà, dans les journaux. Il n'y a même pas les réseaux sociaux, mais la presse internationale fait sa une partout dans le monde. Oui, et c'était une femme très forte. Et moi, quand j'ai eu l'idée de faire le film, eu envie de faire le film, c'était beaucoup pour elle, c'était beaucoup pour l'image qu'elle dégageait. Moi, j'avais l'impression, effectivement, que c'était une femme très forte, qui prenait la parole, ce qu'on appelait une grande gueule. Et puis, pas seulement, elle était intelligente. Et ce couple-là, il était très très emblématique. On leur demandait de signer des pétitions. Ils étaient extrêmement connus et extrêmement aimés du public. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Enfin, j'en vois pas. Oui, peut-être Clooney et sa femme à l'étranger. Je sais pas. Le pouvoir qu'ils exerçaient sur le public, l'attraction et l'image qu'ils donnaient. Alors, l'idée était aussi d'aller un peu regarder derrière l'image quelle était la vérité, la réalité.
Leurs paroles, effectivement, comptaient. À un moment donné, dans le film, d'ailleurs, ils racontent un séjour qu'ils ont vécu en Russie, un dîner avec Khrouchtchev. C'est absolument édifiant. Où Yves Montand et Simone Signoret, ils sont allés vraiment avec tout leur cœur, en expliquant que le peuple dehors avait faim et que c'était une dictature. Enfin, on comprend aussi aisément à quel point ce couple incarnait quelque chose dans la force aussi qu'ils dégageaient, mais dans leur envie aussi de faire avancer les choses, de faire changer les mentalités. Ils ont été vraiment de beaucoup de combats.
C'est ça, ils ont eu le courage. Quand ils sont allés en URSS pour cette grande tournée de Montand dans les pays de l'Est, il n'est pas allé que à Moscou, il est allé partout dans l'Est, dans les pays de l'Est, ils ont beaucoup hésité avant de partir parce qu'on disait, on racontait que l'URSS n'était pas le paradis qu'on imaginait. Ils étaient communistes, ils n'étaient pas au parti communiste, mais ils étaient engagés à gauche, on va dire. Et puis il y a eu Budapest et les Russes ont envahi la ville et se sont installés en Hongrie et tout à coup, ils se sont demandé s'ils allaient y aller quand même. Et ils ont hésité pendant des mois et finalement ils sont partis en se disant, on s'est engagé pour cette tournée, enfin, Montand s'était engagé. Et là, ils ont déchanté. Là, ils ont vraiment vu la réalité, ils se sont baladés. Peut-être qu'on ne les a pas laissés tout voir, mais en tout cas, ils ont vu. Et ils ont eu ce courage incroyable au cours d'une réunion avec non seulement Khrouchtchev, mais tous les membres du Comintern, je ne sais pas comment on appelait ça. Et ils ont dit leur vérité. Ils auraient pu vraiment mal finir, quoi. Et ils sont rentrés à Paris, et là, tous leurs amis communistes leur ont tourné le dos, évidemment. Ils avaient trahi l'idéal. C'est à partir de là qu'ils ont eu le droit d'aller aux États-Unis. On était en pleine guerre froide.
On souffre beaucoup par moments de voir Simone Signoret dans cette tristesse qu'il provoque avec ses absences, ses adultères, son incapacité aussi par moments qu'il a eu à voir qu'elle souffrait, à voir le mal qu'il pouvait lui infliger. C'est une grosse partie du film, ça. C'est un peu une désillusion même aussi pour le public de se rendre compte qu'Yves Montand était aussi comme ça.
Oui, on tombe un petit peu de haut. Je pense que les choses étaient connues. L'histoire de Marilyn a fait le tour du monde. Après, il a été avec Shirley MacLaine. enfin, il arrêtait pas, hein. Mais je pense que le but, c'était pas qu'on tombe de haut, le but, c'était pas de faire un tableau épouvantable d'un homme qu'on admirait, c'était d'essayer de passer de l'autre côté, de passer dans la coulisse, justement. C'est un couple connu, bah oui, mais c'est un couple comme les autres. Et il y en avait beaucoup d'autres à cette époque, des couples comme ça, il y en a encore. Donc, c'est pas, je fais pas une leçon aux hommes, mais... Sa souffrance, elle est là montrée pour nous toucher, pour nous interroger, pour nous questionner et peut-être pour nous surprendre aussi, oui, elle souffre. Et en même temps, elle le fait souffrir aussi. Et en même temps, moi je dis toujours, je pense qu'elle le punit en se punissant elle-même, en se laissant aller, elle boit, elle fume, elle mange, elle s'en fout de son apparence physique, elle est une actrice et elle sait qu'à 50 ans, les actrices à l'époque, encore un peu aujourd'hui, mais elles tombent plus, on leur propose plus de rôles. Donc elle va carrément s'autodétruire. Mais dans cette autodestruction, je pense qu'elle lui fait du mal à lui aussi. Parce que c'est une façon de lui dire, ben, tu vas m'assumer jusqu'au bout. Elle sait qu'il la quittera pas. Elle a un orgueil immense aussi. Donc, c'est très compliqué de naviguer entre l'orgueil, la certitude que ce type est à elle et qu'il la quittera pas, et puis la douleur qu'il lui inflige régulièrement. Mais il revient toujours, donc c'est affreux.
Ils ont vécu 30 ans ensemble. C'est une énorme histoire d'amour. Hein. Il a passé les derniers instants à ses côtés quand elle s'est envolée. Il l'a suivie 6 ans plus tard. Ils sont réunis aujourd'hui au Père Lachaise ensemble. Il le dit d'ailleurs, même quand il y a cette histoire avec Marilyn Monroe, qu'il ne quittera pas Simone parce qu'il ne peut pas vivre sans elle. C'est très étonnant, en fait, Diane, ce qu'on découvre là.
Je pense que c'est quelque chose dans lequel on peut s'identifier. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est affreux et c'est ça qui est beau. C'est qu'on peut se reconnaître. On n'est pas des personnages comme eux, hors du commun, des icônes. Et pourtant, cette histoire, c'est une histoire, au fond, assez répandue, banale, classique. C'est une histoire d'amour. Moi, ce que j'interroge dans la plupart de mes films, je me questionne sur l'amour. J'en vois des portraits différents. Soit c'est moi, soit c'est ma famille, soit c'est des personnages connus. Sagan, George Sand. Je fais des portraits de femmes, très souvent. Et je pense que c'est la grande question, l'amour. Pourquoi on se rend compte, pourquoi on s'aime, pourquoi on s'aime plus, pourquoi on se sépare, pourquoi au contraire on reste ensemble. Tout ça, je pense que ça a fait tourner le monde et ça questionne autant que la politique. Et eux, ils sont politique et l'amour, les deux.
Vous avez jamais cessé d'aimer le cinéma. Ça, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur. Pourtant, vous avez commencé comme comédienne, mais rapidement, ça ne vous amusait plus d'être comédienne. Donc, vous êtes tournée vers l'écriture. Qu'est-ce qui fait que ça bascule?
La frustration, je pense. J'étais une petite comédienne. J'avais pas le talent, peut-être, que j'imaginais que j'avais. Je me disais, à un moment, au bout d'un moment, j'ai fait ça pendant 8 ans. C'était mes premières années de travail. J'ai travaillé beaucoup. J'ai fait beaucoup de télévision, beaucoup de théâtre, un peu de cinéma. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ma connexion avec le public, ce que j'ai envie d'exprimer ne viendra pas par là. Je serai pas cette personne. Et donc, je me suis dit, il faut que je m'échappe de ce métier, il faut que je m'en sorte. Et c'est passé par l'écriture. Et j'ai écrit sous forme d'un petit roman, d'un début de roman, ce qui est devenu Diabolomante. Et ça m'a permis de devenir cinéaste. Je l'ai pas vraiment voulu, mais une fois que j'ai fait Diabolo, que j'ai goûté à cette excitation, à ce plaisir, que j'ai découvert qu'il y avait un métier qui me plaisait et qui était probablement un des plus beaux du monde. On n'est pas très nombreux à l'exercer, mais c'était vraiment un privilège formidable. Comme le film a eu beaucoup de succès, bah j'ai continué, quoi. Et après, j'ai pu lâcher. Je suis jamais retournée de l'autre côté de la caméra.
Vous aviez besoin d'agir pour vous-même. Quelque part, vous avez un côté qu'avait Simone Signoret aussi. C'est-à-dire, en tout cas, je parle des portraits de femmes que vous dressez. J'ai l'impression qu'elles ont toujours un petit truc à vous qui vous correspond.
Je pense que j'ai pris modèle sur ma mère. J'avais une mère très indépendante. Elle a quitté mon père quand j'avais 5 ans. Elle a pris ses deux enfants sous le bras, comme George Sand d'ailleurs. Ses deux enfants sous le bras et elle est montée à Paris, comme on disait. Elle n'avait pas d'argent, pas de métier. Et elle a pensé que sa liberté, son indépendance, son émancipation était plus importante que tout, y compris que le petit bonheur familial qu'au fond, elle ne vivait pas. Donc c'est mon modèle. Elle avait des défauts aussi. Mais oui, j'ai eu comme modèle ces femmes-là, ces femmes...
Courage.
Courage, absolument. Et je pense que je suis dans cette lignée-là. Alors voilà, j'ai toujours été très indépendante. Je ne me suis jamais mariée, par exemple. C'est un exemple. Bon, une espèce d'idée que quand on se marie, on divorce. Mais ça ne m'a pas empêché d'aimer, de vivre ma vie, d'avoir un enfant. Enfin, tout ça, ouais, je suis une femme... peut-être que les portraits de femmes que je fais, je les fais aussi pour m'identifier un peu et pour que le public les connaisse comme je les connais quand je prépare le film. C'est passionnant d'écrire sur la vie des autres, pas seulement sur la sienne.
Est-ce que ça guérit de raconter ces histoires et de voir à travers les yeux des autres qu'elles ont une répercussion, qu'elles parlent, qu'elles traduisent aussi ce que chacun et chacune vit?
Je sais pas si ça guérit, mais ça fait avancer soi-même et puis les autres. C'est ce partage-là qui est excitant. Ça a l'air bête de dire ça, mais on rencontre jamais le public ou très peu. Là, on va partir en tournée province, on va enfin rencontrer des gens à la sortie des films. Et ça va être très important pour moi, en tout cas, et pour les acteurs aussi, sans doute, parce que c'est le seul moment vraiment où le résultat de ce qu'on a fait pendant, allez, moi, c'était 4 ans d'écriture et tournage. Bah, pendant tout ce temps, on est seul dans sa petite chambrette, et tout à coup, on se montre, et ça fait du bien. Je sais pas si ça guérit, mais on a l'impression qu'on fait pas ça en vain. Voilà. Il suffit que quelqu'un vous dise dans la foule ou à la sortie d'une salle, je me suis reconnue. Moi, ça me suffit. Hein.
Il y a eu Diabolomante, effectivement, avec un succès critique et vraiment populaire pour le coup, parce que le public s'est déplacé. Suivront Cocktail Molotov en 80 avec François Cluzet et Lise Caron, Coup de Foudre, Miu Miu, Isabelle Huppert, Guy Marchand, Jean-Pierre Bacri, un film basé sur les mœurs de l'époque, hein, dans les années 40 et 50. Il a remporté d'ailleurs de nombreux prix, a été nommé en 84 à l'Oscar du meilleur film étranger. Ça vous a touché, ça, justement, aussi, de dépasser les frontières?
Oui, oui, bien sûr. C'était une époque aussi où le cinéma français s'exportait mieux qu'aujourd'hui. On a un peu perdu cette bagarre-là contre les Américains, beaucoup, on l'a beaucoup perdu, mais bon, tant mieux, le cinéma est encore vivant, le cinéma français, il y a encore beaucoup de films qui se produisent en France, de temps en temps, les étrangers nous voient dans les festivals, etc. Bien sûr que ça m'a touché, les Oscars, bon, on m'avait dit que j'aurais pas l'Oscar, parce qu'il y avait Bergman en face de moi avec Fanny et Alexandre, alors j'avais aucune chance, mais j'étais contente d'y aller, et effectivement de toucher un public américain. Le film Coup de Foudre, il s'appelait Entre nous en Amérique, ils avaient pris un titre français. Il est resté un an à l'affiche à New York. C'était beaucoup pour une petite Française qui avait fait son petit film sur sa famille. Donc oui, bien sûr que ça m'a touchée. Ouais.
Bon, et puis il y a eu effectivement La Baule des Pins. On est en 89. Vous avez rassemblé Isabelle Huppert, Bernard Giraudot, Lio. Il y a eu À la folie avec Anne Pareo, Béatrice Dalle. Vous avez toujours dirigé des grands acteurs, finalement, avec du caractère, j'ai l'impression, ouais. Diane. C'est dur, ça. Et est-ce que ça permet aussi d'évoluer, de se challenger?
Bah, les grands acteurs ont souvent du caractère. Bon, Béatrice Dalle, elle a un très grand caractère. Vous êtes arrêté sur elle. C'est un film que j'adore et qui passe jamais à la télé. À la folie, qui est un film très... C'est l'histoire de deux sœurs et c'est aussi très autobiographique, comme beaucoup de mes films. Oui, diriger des acteurs, c'est... Tous les metteurs en scène vous disent la même chose. On ne dirige pas un acteur. Il faut juste bien le choisir au départ. Après, il faut s'adapter. Et j'ai appris ça assez tôt sur un film qui s'appelait Un homme amoureux, que je tournais avec Peter Coyote. Un jour, je suis arrivée sur le plateau et puis il faisait la gueule. Il lisait un journal et il ne m'écoutait pas. Et j'étais en train de faire ma mise en scène, de diriger. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il est furieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis allée le voir, bon, et il me dit, oh oui, non, ça fait plusieurs jours que je remarque que tu nous diriges, tu nous dis où il faut qu'on s'assoie, où il faut qu'on aille, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Alors moi, je lis mon journal. Et en fait, j'ai compris ce jour-là qu'il fallait d'abord que je laisse la parole aux acteurs, d'abord que je laisse la place aux acteurs. Et vraiment, j'ai changé du tout au tout ce jour-là, parce qu'il m'a vraiment vexée. Il avait raison. Donc maintenant, je fais plus ça. J'arrive et je laisse les acteurs se déplacer, bouger, me proposer leur vision. Si c'est exactement la même que la mienne, bah, tout va bien. Puis si c'est pas exactement, alors je les amène tout doucement à ce que j'ai imaginé. Voilà. Faut prendre des gants avec les acteurs. Les grands comme les petits, d'ailleurs.
Est-ce que votre force ne se trouve pas là, finalement, Diane? C'est d'avoir été d'abord comédienne. De savoir ce que ça signifie d'incarner un personnage, de jouer un rôle, de se voir confier justement un rôle.
Si, certainement. Je pense que tous les metteurs en scène devraient avoir joué au moins une ou deux fois pour comprendre ce que ça fait d'être de l'autre côté de la caméra. Ça m'a appris beaucoup à écrire aussi, parce que je sais maintenant, quand un texte est facile à mettre en bouche, à apprendre, à dire, à restituer. Et je pense que c'est surtout sur l'écriture des dialogues que ça m'a aidé. Et puis oui, je sais ce que c'est, je l'ai vécu, donc je l'ai pas vécu en très grand, mais je l'ai vécu. Ça a été mon école à moi. D'autres arrivent à la réalisation par être assistant, directeur de production, je sais pas, scénariste. Moi, j'y suis arrivée par le jeu. Beaucoup de metteurs en scène, et particulièrement de metteurs en scène américains, ont été des acteurs. Énormément.
On parle du titre, Moi qui t'aimais, ce qu'on pense évidemment à la chanson, et on entend la voix d'Yves Montand. Est-ce que c'est pas ça la force aussi de sa personnalité? C'est qu'il incarnait ça. C'est-à-dire que quand on dit Yves Montand, on entend sa voix alors qu'il n'est plus là.
Oui, oui, on entend les feuilles mortes, on entend les chansons de Prévert qui sont dans le film. Oui, bien sûr. Avant tout, c'était un chanteur. Il commençait comme ça et il se définissait comme un chanteur. Il est devenu un acteur ensuite. Il est devenu un excellent acteur alors qu'il était un très mauvais acteur au départ, dans Les Portes de la Nuit de Marcel Carné. Si quelqu'un a l'occasion un jour de voir ce film, il est pas bon du tout. Et on se dit, mais ce type ne fera jamais carrière. Or, quelques années plus tard, il devient l'incontournable Yves Montand, qui fait tous les films de Sauté, tous les films de Corneau. Enfin, il est vraiment, et il devient un très très bon acteur. Il a travaillé énormément. Mais comme chanteur, c'est vrai que sa voix, peut-être aujourd'hui, c'est un peu démodé, peut-être on l'écoute avec une ironie, un sourire. Mais les chansons sont belles et les chansons restent. Et puis, oui, les chansons restent encore davantage que les films, je crois.
Est-ce que les chansons ont finalement dicté un peu votre écriture?
Non, tout a dicté mon écriture, les rencontres que j'ai faites avec les gens qui ont connu Signoret et Montand, les livres que j'ai lus, les interviews qu'on a regardées avec ma scénariste Martine Morricone, avec qui j'avais écrit Sagan. On a regardé énormément, il y a beaucoup d'interviews, on a écouté Radioscopie, on écoute, on s'imprègne et on finit par les connaître par cœur. Et on se glisse dans leur peau, de lui comme d'elle. Les chansons, on les écoute au fur et à mesure. J'ai écouté pas mal de chansons de Montand quand même. Et puis surtout la musique, elle a été écrite par Philippe Sard, qui a été le compositeur de toutes les musiques des films dont je parle dans ce film. Le film se déroule sur 12 ans, les dernières années de leur vie. Et toutes les musiques de films, de Corneau, de Sautet, de Mizrahi, Madame Rosa, c'est lui qui les a écrites. Alors, il était incontournable pour faire la musique de ce film. Et puis, il y a la musique des choses de la vie, évidemment, dans le film. On a réenregistré la musique des choses de la vie. Et il était tellement émouvant à regarder dans ce studio où il y avait tout l'orchestre derrière la vitre. Et il écoutait. Et c'est la musique de film qu'il a écrite à 20 ans, sa première musique de film. Son premier film, c'est ce film de Claude Sautet. Et il a fait toute sa carrière à partir de là. Donc, c'était très, très, très émouvant de le voir et de le sentir lui-même ému à réécouter ses propres notes.
Vous êtes beaucoup documenté pour faire ce film. Vous n'avez pas eu des retours que positifs de la part de certains membres de la famille. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez ce sentiment que, de toute façon, cette image et ce que vous relatez dans ce film correspond à la vraie histoire de Signoret et de Montand?
Bah oui, ça serait affreux de dire j'ai menti, j'ai trahi, j'ai triché. J'ai essayé, comme dans tous mes films, c'est le 15e, de parler des gens que j'ai connus ou que je n'ai pas connus avec honnêteté, avec sincérité. Alors, quelquefois, on se trompe et quelquefois, on imagine faux. Mais en fait, on s'est basé sur une chronologie. Voilà, à cette époque-là, Signoret a fait tel film, Montand a fait tel voyage, etc. Et puis après, on invente tout. Au fond, rien n'est vrai. Parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer dans cette scène où il est avec Carole Amiel, qu'il a rencontrée il y a quelques années, et puis il est en train de lui dire qu'il est amoureux. J'étais pas là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'imagine, je me mets à la place, j'invente. Et puis quand je montre le film à Carole Amiel, parce que je suis quand même obligée de lui montrer, ou à Nadine Trintignant, parce qu'elle est un personnage du film. Elle a même ses deux maris dans le film, et Corneau et Jean-Louis Trintignant, incarnés par deux acteurs. Alors elles sont émues, parce qu'évidemment c'est le passé, Montand est mort. Pour Carole, je pense que c'est une émotion de voir le film interprété par un acteur. Et pour Nadine, c'est pareil, elle se revoit à 30 ans. Mais bon, leurs réactions à elle me paraissent sincères.
La répercussion d'ailleurs avec le couple Trintignant est assez folle. Hein. Entre justement Signoret, Montand et Trintignant, le côté volage existait d'un côté ou de l'autre. Ça a été terrible pour ces femmes.
Les acteurs, souvent, alors on va parler au passé, étaient très sollicités. Les actrices aussi, il ne faut pas non plus.
Mais elles sont restées fidèles.
Non, qui sait ça?
Non, d'accord.
Est-ce qu'on le sait? Mais non. Mais non. Nadine Trintignant, elle part avec Alain Corneau quand même. Ils sont tous les deux dans le film. Mais non, je pense que les actrices, elles avaient autant de tentations sur les tournages. Les tournages, c'est des lieux terribles, très dangereux, parce qu'il y a une espèce de sensualité dans l'air. Donc, à l'époque, on s'autorisait tout. Aujourd'hui, on ne s'autorise plus rien. On a raison. Parce que si ça devient du harcèlement, c'est épouvantable, c'est affreux. Voilà, le côté j'ai le pouvoir de te faire devenir une grande actrice, tout ça, c'est monstrueux. Je ne l'ai pas vécu, moi, quand j'étais actrice. Mais tout ce qui est fait aujourd'hui, là, MeToo, le mouvement pour défendre les femmes, c'est bien. Je suis une femme, je suis féministe, je ne peux pas être autrement que féministe en étant une femme. Donc, c'était un homme comme ça. Et je ne sais pas si Signoret ne l'a pas trompé. Je n'en sais rien, je n'en parle pas. Mais ça se trouve, elle a eu des aventures. On m'a glissé des choses à l'oreille. Voilà.
Pour terminer, est-ce que Simone Signoret aurait été Simone Signoret sans Yves Montand et inversement? Parce que lui, il n'a eu de cesse de la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour lui.
Leur vie prouve qu'ils se sont aimés vraiment profondément. Alors le film questionne ça. Est-ce qu'on peut s'aimer avec ses absences, ses trahisons, ses lâchetés, ses mensonges? Il y a une réponse à la fin du film. Voilà. Ils se la donnent l'un et l'autre. Le film se termine avec cet aveu. Et c'est ça qui donne l'émotion. C'est pour ça que les gens, ils sortent un peu en pleurant, en tout cas très émus, parce que à la fin du film, ils se disent, alors que c'est la fin pour elle, sans doute, je te quitterai jamais. Et en fait, c'est ça le film. C'est deux personnes qui sont fortes, qui s'opposent, qui se battent, qui se déchirent, et qui s'aiment, et qui s'aiment, et qui s'aiment. Et c'est pour ça que ça s'appelle « Moi qui t'aimais ».
Merci beaucoup, Diane Curis, d'être passée dans Le Monde Élodie sur France Info. Le film s'appelle « Moi qui t'aimais », il sort donc au cinéma. Merci beaucoup.
Merci à vous.